France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les midis de culture. À 13h, je recevrai la journaliste Raphaël Baquet, grand reporter au Monde, pour son livre Succession, secret de famille, saison 2. Mais d'abord, et comme chaque jour, tout commence sous les feux de la critique. Et c'est la musique classique à l'honneur ce midi, avec une mise en scène historique de Carmen, disponible en DVD, mais aussi visible gratuitement en ligne et bientôt en vrai à l'Opéra Royal de Versailles. Puis un disque Chopin étude de Yum Cham Lim, jeune pianiste phénomène sud-coréen, sorti chez Decca. Et autour de la table, à mes côtés aujourd'hui, deux vaillants critiques pour ce dernier jour de l'année 2024. Anna Sigalevitch, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes journaliste et auteur. Et Charles Ardenne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des contenus d'Olyrix et de Classique. Et au bienvenue à tous les deux. Alors on commence avec la mise en scène de Carmen, de Georges Bizet, opéra comique en quatre actes, dans la mise en scène historique de 1875, coordonnée par Romain Gilbert et à la direction musicale Blaine Glasberg, que l'on peut voir donc en ligne sur le site du Centre de musique romantique française. Et alors que nous allons commémorer les 150 ans de la mort de Bizet en 2025, nous vous proposons là un retour dans le temps avec cette restauration. On interrogera le mot avec nos critiques d'ici quelques secondes de cette mise en scène d'origine, déplacements, costumes et décors. Tout est dans son jus ou presque. Alors Charles, en quelques mots pour commencer, est-ce que vous avez aimé ce voyage en 1875 ?
Il m'a beaucoup intéressé pour le projet, justement parce que, vous le dites vous-même, c'est une restauration, c'est une reconstitution, mais pas exactement. C'est pas non plus un projet muséal ou de faire un musée vivant, ou alors c'est un musée tel qu'il devrait toujours l'être, c'est-à-dire on est loin d'une reconstitution exacte, parce que évidemment, ce qu'il faut dire avant toute chose, c'est que cette production s'appuie sur les livrets de mise en scène. À l'opéra, on connaît les partitions avec la musique, on connaît les livrets, c'est-à-dire le texte qui est chanté, mais là, le Palazzetto Bruzane a retrouvé les livrets de mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a des livrets dans lesquels le régisseur général du théâtre, en l'occurrence de l'opéra comique, à la création de Carmen, ou plutôt pendant le travail préparatoire des répétitions de Carmen, consignait les déplacements, la disposition au plateau, les mouvements, mais pas beaucoup plus, en fait. Il n'y a pas les interactions entre les personnages, il n'y a pas d'intention scénique. Donc, c'est laissé aussi à la part du travail du metteur en scène, en l'occurrence Romain Gilbert. Et donc, ça reste un travail vivant, même si c'est une reconstitution.
On va détailler tout ça. Anna Sigalevitch, même exercice. Comment avez-vous trouvé cette Carmen des origines ?
Écoutez, moi, je suis un peu partagée entre, comme Charles, l'intérêt historique et tout le travail extrêmement louable du Palazzetto Bruzane. Parce qu'il faut dire quand même que c'est pas que pour Carmen. Hein. Il y a 2000 livrets sur lesquels ils ont travaillé parce que Alexandre Radwicki, qui est le directeur artistique du Palazzetto Bruzane, a rencontré une musicologue il y a une quinzaine d'années qui s'appelle, il faudrait que je donne son nom à cette musicologue.
Michela Nicolai.
Michela Nicolai, exactement, voilà. Et donc, ils ont beaucoup enquêté pour exhumer toutes sortes des livrets de mise en scène qui sont maintenant numérisés, qui sont accessibles sur le site de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, qui sont accessibles aussi sur le Mediabase du Palazzetto Bruzane. Donc ça, c'est un travail pour les chercheurs qui est magnifique, donc c'est formidable. Après, l'incarnation de ce travail en scène avec ce Carmen là, l'intérêt pour le public aujourd'hui, là je m'interroge un petit peu plus, même si je suis d'accord avec Charles sur le fait que c'est pas muséal la façon dont ils l'ont fait.
Et ne mentira pas
Charles, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre là? Où est-ce qu'on en est de l'intrigue et qu'est-ce qu'on voit sur scène à ce moment-là?
On est en train d'entendre Carmen, donc, qui vient de tirer les cartes. D'ailleurs, juste après, ses camarades bohémiennes qui, elles, en tirant les cartes, ont vu pour l'une un joli jeune homme, un joli chevalier, son amant, pour l'autre un vieux mari. Et ça lui convient très bien parce qu'elle lit dans les cartes qu'il va mourir et qu'elle hérite. Donc voilà le passage comique. Et juste après, Carmen, elle, tire les cartes. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit sa mort, ce qui est... très important, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, c'est parce que Carmen, alors au-delà du fait de lire dans les cartes, qui est voilà une activité un peu folklorique de laquelle on peut se moquer, Carmen sait d'avance quel est son destin en tant que femme libre, en tant que bohémienne qui vit ses amours comme elle l'entend. Elle sent, elle sait qu'elle va mourir sous les coups, pardon, un divulgachage de Don José, et elle continue tout de même à tracer sa route, à être libre, à affronter son destin. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Du coup, on la voit seule face à son destin dans une montagne où elle est en train de commettre divers larcins avec ses camarades bohémiens. Après qu'on ait vu, et ça c'est très important dans cette mise en scène, donc les décors d'origine, les décors de 1975.
Mais alors à quoi ils ressemblent scénographiquement?
Voilà,
qu'est-ce qu'on voit?
De fait, c'est des toiles peintes. Donc les toiles peintes qui correspondent, et c'est pour ça que cette mise en scène a beaucoup plu, parce que ça correspond à ce qui est dit dans le livret. On n'est pas comme chez les méchants du régime théâtre, dans une salle d'attente d'un psychanalyste ou que sais-je, on a vraiment des toiles peintes qui montrent la place de Séville, ensuite qui montrent l'auberge, la taverne de l'île Aspasia, là qui montrent les montagnes de l'exil et qui vont montrer l'entrée de la corrida dans laquelle va se jouer le drame.
Alors Anna, peut-être un mot sur la voix qu'on vient d'entendre de Carmen avant de revenir sur cette mise en scène historique. On entend beaucoup de subtilité dans cette voix-là.
Ah oui, absolument, on entend beaucoup de subtilité. C'est donc cette jeune mezzo qui s'appelle Dipa Johnny, que personnellement je ne connaissais pas, que peu de gens, faut dire quand même, connaissaient. Charles non plus ne connaissait pas. Voilà, elle a remplacé Marianne Crébassa qui était enceinte, donc elle a pas chanté le rôle. Et alors là, très très belle découverte, parce que c'est complexe hein, comme rôle Carmen, et je trouve qu'elle a à la fois la présence, le timbre extrêmement charnu et le côté à la fois provocateur, sensuel et voluptueux de Carmen dans la voix et dans sa présence physique. Et en même temps, c'est pas une voix qui est trop large, elle est très précise. Le français est impeccable, la diction est impeccable. Moi, c'est vraiment le genre de Carmen auquel je suis très sensible, donc. Magnifique découverte que cette Dipa Johnny en Carmen.
Alors, pour revenir sur cette mise en scène historique de 1875, vous disiez que c'était pas muséal, que c'était pas patrimonial. Est-ce que c'est exactement la même mise en scène? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'ils avaient dans ces fameux livrets qu'on a retrouvés? Et qu'est-ce qui est de la part de la création d'aujourd'hui? Peut-être Charles pour commencer.
Comme je le disais, dans ces livrets, on trouve beaucoup de choses. On trouve les emplacements en fait scéniques des solistes et aussi des chœurs, parce que notamment Carmen, vous avez quand même un sacré nombre de choristes, et en l'occurrence même il y a une reconstitution dans cette version avec les figurants, avec les danseurs,
avec
des mimes.
Ils sont combien sur scène?
Ils sont un nombre démesuré, notamment pour l'opéra comique où l'œuvre a été créée, qui est un tout petit plateau en fait. On n'est pas à Garnier, encore moins à Bastille. Et donc ce livret, déjà, il servait beaucoup à réussir à caser tout ce monde-là sur la scène, parce que en plus, chacun a, jusqu'au dernier des figurants, un costume magnifique, en l'occurrence repris par Christian Lacroix, voilà, s'il vous plaît. Donc ça servait déjà à faire en sorte que les gens se rendent pas les uns dans les autres et arrivent à se coordonner sur scène. Ça dit beaucoup de choses, ce livret de mise en scène, mais ça dit aussi très peu, en fait. Ça ne dit rien, comme je le disais, des interactions, de l'intention, du jeu. Ça laisse énormément de liberté aux interprètes, à ce qu'est aujourd'hui le metteur en scène, c'est dont s'est chargé Romain Gilbert. Mais à l'époque, il faut savoir que les chanteurs, ils avaient une formation très poussée en art dramatique, aussi bien dans les conservatoires qu'ensuite, il y a des traités, ils avaient des...
Des traités de pause,
exactement, des choses comme ça. Exactement.
Mais il y a beaucoup de théâtre dans cette mise en scène-là.
Énormément, parce qu'il y a toute la dimension vivante qu'il faut rendre. J'ai choisi aussi cet extrait pour montrer que voilà, Carmen, c'est pas seulement la Banera ou la Seguedi. C'est un drame puissant, profond, qu'il faut absolument vivre et incarner.
Anna, quel est l'intérêt pour vous, pour les spectateurs d'aujourd'hui, de voir cette mise en scène restaurée?
Alors, c'est là que la question se pose et qu'en effet, c'est un petit peu complexe. Alors, je vais répondre à votre question, mais après j'aimerais bien revenir sur autre chose. L'intérêt pour nous, c'est... pour quelqu'un qui découvrirait Carmen, c'est de voir vraiment l'histoire comme elle a été écrite, et le livret comme il a été écrit, et avec toutes les didascalies, avec toutes les intentions de l'époque. Donc ça se raconte au premier degré, c'est très fluide, on suit très bien l'histoire, les personnages existent, notamment le personnage de... Alors là, je me suis dit, parce que évidemment, en voyant cette production, on se dit, allez, essaye de faire comme si tu n'avais jamais vu Carmen.
C'est difficile, parce qu'on l'a beaucoup vu.
Alors voilà, mais essaye d'être en 1875 et de faire comme si tu découvrais ça. Et alors, c'est vrai que je me disais, mais c'est fou cette opéra, c'est quand même tellement un chef-d'œuvre. En fait, de chaque moment, chaque air, la partition dès l'ouverture est complètement folle, la modernité du personnage. J'imagine le choc que ça a pu être. Tant d'un point de vue positif que négatif, parce que c'est vraiment une partition qui est ardente, avec des personnages qui sont flamboyants. Donc, en se mettant dans cette position, je trouve qu'on redécouvre le chef-d'œuvre qu'est l'œuvre. Après, pour des mélomanes avertis comme nous, pour des journalistes, pour des critiques, c'est plus compliqué, parce que la mise en scène a tellement évolué en 150 ans. Enfin, déjà, elle a commencé à exister, puis à se développer. Alors, ça pose des questions, parce qu'il y a tout un courant aujourd'hui qui dit on est allé trop loin dans la modernité, dans la remise en question des livrets, dans la torsion des livrets.
Oui, ou dans l'abstraction.
Voilà, là, c'est très concret. C'est vraiment l'histoire qui se raconte au premier degré. C'est vrai que moi... Quand je vais voir Carmen, j'attends autre chose. J'attends une proposition, j'attends un point de vue de metteur en scène. Là, c'est pas ça qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est la justesse des relations entre les personnages, la situation qui vit et l'histoire qui se raconte avec le plus de fluidité possible. C'est déjà pas rien, hein, c'est déjà très bien. Mais moi, comme spectatrice, quand je vais voir une nouvelle mise en scène de Carmen, ce n'est pas ça que j'attends. J'attends autre chose, tout simplement.
Charles, est-ce que ce regard rétrospectif, il a marché pour vous aussi? Vous avez dû certainement voir des dizaines, voire des centaines de mises en scène de Carmen. Est-ce que quand on revoit celle qui a été proposée au moment de la création, eh bien, on redécouvre peut-être certains pans de l'œuvre qui ont été amoindris par les mises en scène contemporaines, ou au contraire, est-ce qu'il y a ce regard rétrospectif qui fonctionne?
Le Palazzetto Brusane a fait un choix qui est de s'appuyer sur les livrets de mise en scène, mais comme je le disais, de pas vouloir faire non plus une reconstitution comme exactement le 3 mars 1875. Donc évidemment, les spécialistes que nous sommes, forcément, on se dit, tant qu'à faire une reconstitution d'une version de 75, pourquoi pas aller jusqu'au bout?
Oui,
on a les récitatifs de Guiraud. Donc, c'est-à-dire que on ne nous présente pas Carmen comme l'opéra comique qu'il est. Opéra comique, ça veut pas dire, on s'amuse, surtout pour Carmen. Opéra comique, ça veut dire qu'il y avait une alternance entre des passages parlés, la comédie, et des passages chantés. Or là, ils ont fait le choix, ils l'assument, d'ailleurs, dans le livret explicatif.
Mais ça veut dire quoi, pas aller jusqu'au bout?
Ils l'assument, oui et non. Franchement,
ils disent, on a décidé de pas revenir à la version opéra comique
pour des raisons un peu bizarres.
Il y a
deux choses. Il y a effectivement les récitatifs. Ça, moi, je suis quand même. Alors, je suis pas du tout contre les récitatifs. Enfin, je suis pas du tout une puriste.
Chanter à la place du parler.
Voilà, à la place des dialogues parlés. Ces récitatifs ont été écrits par Guiraud après la mort de Bizet, et ils ont été créés en octobre 75, alors que Carmen a été créée en mars 75, et entre temps, Bizet est mort. Bon. Je trouve que c'est quand même un peu étrange, si on prétend faire une mise en scène de l'époque originale, de ne pas faire ça. Première chose. Deuxième chose, comme l'a a commencé à le dire Charles, les instruments d'époque. Là encore, moi je suis pas forcément une ayatollah des instruments d'époque, loin de là, mais Bah, si on le fait, on le fait. Voilà. Et alors,
Donc il y a une promesse qui est pas forcément tenue. C'est ça, quand on dit mise en scène historique, on attend autre chose, quoi.
C'est pas une mise en scène historique, puisque ces deux éléments qui sont quand même pas des détails ne le sont pas. Et alors, dans le livre qui accompagne le coffret DVD, Alexandra Dvicky dit oui, mais c'est parce que comme ça, ça va pouvoir être repris ailleurs. Et ça, c'est pour montrer que ça peut être joué dans tous les théâtres avec des chanteurs non francophones et avec des orchestres pas d'époque. Oui, bah d'accord. Enfin, après, chacun adapte comme il veut. Mais je trouve que c'est pas très cohérent, franchement, de proposer ça.
Vous n'êtes pas très convaincu par ces arguments-là.
Non.
Alors, allez-vous faire donc votre avis sur cette mise en scène sur le site du Palazzetto Bruzane? On peut la regarder de façon libre, ou le coffret DVD qui est disponible. Vous en parliez, Anna, et vous pourrez assister aux représentations qui seront, elles, dirigées par Hervé Niquet. Ce sera à l'Opéra Royal de Versailles du 14 au 22 janvier prochain. Anna, ne partez pas trop loin du micro, c'est à vous. Vous aviez un conseil en cette fin d'année, un coup de cœur pour le coffret David Oistrakh.
Ah oui, là, c'est pas un conseil, c'est vraiment un très grand coup de cœur pour ce coffret très extraordinaire qui contient donc 58 CD et 3 DVD. Alors, pourquoi c'est extraordinaire? Parce que c'est Bruno Mont-Saint-Jean qui s'est occupé d'établir son édition. Bruno Mont-Saint-Jean, est-ce que je dois rappeler un tout petit peu
rapidement?
Immense réalisateur des plus grands films, des plus grands musiciens du XXe siècle, auteur de livres. Bon, c'est une personnalité très à part, musicien lui-même. Il a brossé le portrait des plus grands, donc Oistrakh, Menuhin, Richter, Gould, et j'en passe. Voilà, c'est vraiment une mémoire vivante. Il est encore vivant et c'est très extraordinaire qu'il œuvre encore. Là, on entend quelque chose de très particulier, je vous explique. En fait, Bruno Mont-Saint-Jean a mené une enquête très approfondie à partir de la fin des années 70 pour exhumer des bandes qui n'étaient pas du tout disponibles. Donc il a c'était pas compliqué, c'était en Union soviétique, hein, donc il a rusé, il a enquêté avec beaucoup d'obstination, et donc il en sort beaucoup d'inédits et même des œuvres que Oistrakh n'a jamais enregistrées. Donc on l'entend dans un nouveau répertoire, comme dans ce Lied de Mendelssohn, par exemple. Voilà, il faut parler bien sûr un tout petit peu
pour finir.
Il y a le film merveilleux Oistrakh, artiste du peuple, point d'interrogation. Et puis surtout, faut l'écouter, voilà, cette sonorité unique, ce chant, cette expressivité. Enfin, c'est un des plus grand violoniste de l'histoire.
Je crois que vous nous avez donné très envie.
J'espère.
Et nous passons à présent à notre deuxième débat critique du jour. Place au piano et à un jeune prodige, Yoon Chan Lim. Il a 20 ans, il est sud-coréen. C'est le plus jeune lauréat du concours international de piano Van Cliburn. C'était en 2022, il avait 18 ans. Et il a alors ému aux larmes professionnelles et publiques rassemblées par millions en ligne pour assister à sa performance. Alors, en choisissant d'enregistrer les études des opus 10 et 25, il se place dans une lignée de grands pianistes qu'il admire. Anna, en une phrase, qu'avez-vous pensé de ce disque ?
J'ai pensé que c'est un nouveau personnage très intéressant qui débarque dans la planète piano, en une phrase.
C'était parfait. Charles, est-ce que vous avez été impressionné par ce jeune prodige ?
Oui, clairement. Et pourtant, des prodiges, on nous en vend, ouais. On nous en survend, on nous en présente même en prime time sur le service public. Là, ça, c'est vraiment un vrai... Enfin, il est au-delà du prodige, d'une certaine manière, puisque déjà, à cet âge-là, il a énormément à dire.
Anna Sigalevitch, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre là ?
Alors, on écoute l'opus 25, numéro 4, qui est une étude. Alors, parce qu'il faut expliquer que chaque étude de Chopin fait appel à des spécificités techniques très précises et très particulières. Cette étude, il y a des sauts à la main gauche, et à la main droite, il y a les aigus qui sont joués legato, et le médium qui est joué pizzicato. Donc, c'est une technique particulière. Pour chaque étude, il y a des choses, les traits, les tierces, les sixtes, le passage du pouce, voilà. Donc, c'est les études pour Chopin, c'est vraiment une sorte de sommet de la littérature pour piano. Pourquoi ? Pour leurs difficultés techniques, d'abord, bien sûr, comme je vous le disais, hein, chaque étude, voilà, mais aussi pour leur dimension musicale
inouïe et sublime. J'en parlais avec avec une pianiste récemment qui s'appelle Célimène Daudet, qui est aussi pédagogue. Elle me disait que pour elle, c'est vraiment la plus belle illustration de l'écriture pour la main du pianiste. Parce qu'il y a quelque chose de complètement physiologique, il y a quelque chose de complètement organique. Et personne n'est allé aussi loin dans le travail et dans la précision, dans l'intelligence musicale avec les spécificités techniques de la main du pianiste.
Mais est-ce que vous avez été surprise par le choix de ces œuvres proposées par ce tout jeune pianiste ?
Alors, oui et non. Parce que, à la fois, non. Parce que les jeunes pianistes sont souvent obsédés par les études de Chopin. Il faut savoir que c'est vraiment le Graal. Je veux jouer les études de Chopin. Tous les jeunes apprentis pianistes veulent en jouer. C'est aussi un passage obligé pour les concours, hein, pour les concours internationaux. Il y a toujours une étude de Chopin, donc c'est un peu le Graal. En même temps, pour un premier disque comme ça, après son disque du concours Van Cliburn, jouer les 24, hein, parce que bon, quand même, on peut jouer plutôt l'opus 10 ou l'opus 25, lui, il joue pas les 24 d'entrée de jeu, ce qui est comme une, je sais pas comment dire, il se met à nu, il dit voilà, ben moi je suis cette personne-là, parce que on voit tout, c'est comme un scanner du pianiste en fait, les études de Chopin. On voit à la fois les capacités techniques, mais on voit aussi les capacités émotionnelles, on voit l'intelligence musicale, parce que pour les études, si on a que des doigts, ça marche pas. Il faut vraiment beaucoup beaucoup d'intelligence, et ce qui est intéressant, c'est que pour lui, donc là on a écouté cette étude hyper technique qui joue paf comme ça sans aucun problème. Mais il y a par exemple une autre étude, l'opus 25 numéro 7, qui pour lui est la plus difficile.
Vous voulez qu'on l'écoute ?
Ah oui, volontiers.
Allez, on écoute un petit bout et vous continuez à nous raconter dessus.
Voilà, donc cette étude, eh bien, on l'écoute a priori beaucoup moins virtuose, à part deux passages à la main gauche, mais bon, ça, hein. Mais cette étude, donc, elle fait travailler beaucoup la polyphonie, le discours. C'est une étude lente qui dure beaucoup plus longtemps que la plupart des autres études. Pour lui, c'est la plus difficile. Il dit qu'il a travaillé énormément le début pour construire, pour raconter une histoire. Et donc, c'est intéressant parce que, en fait, chaque étude raconte le pianiste. C'est pas les mêmes qui sont difficiles pour chaque pianiste.
Charles, voilà. Où est-ce qu'elle se place selon vous, la virtuosité ou le prodige de ce pianiste-là ? Où est-ce que vous l'entendez ?
Déjà, dans ses œuvres, la virtuosité, elle est évidente dans toutes les études qui sont très rapides, qui demandent des gestes techniques impressionnants, qui demandent une maîtrise absolue de son instrument. Et comme le disait Anna, de son expressivité, ça se joue pas que avec les doigts. D'ailleurs, ça se joue aussi avec les pieds, le piano, et enfin... Il a un travail des pédales aussi qui est incroyable. Vraiment, tout est incroyable dans son interprétation. Une gestion même de l'épaisseur des touches, de la diffusion du son qu'on ressent. La prise de son est très intéressante techniquement parce que elle nous donne des graves que je trouve très épais, et en même temps il y a une profondeur. Ce qui contribue aussi à nourrir son jeu.
Hein. Elle est assez étrange. Elle n'est pas moderne. Enfin, non. Elle n'est pas comme on fait aujourd'hui, je trouve.
Ça ressemble d'ailleurs à la jaquette, et on a l'impression que c'est un disque des années 50 ou 60.
Et d'ailleurs, les pianistes qui citent comme modèle, c'est plutôt des anciens. Hein. Donc quelque chose d'un peu old-fashioned quand même.
Et ça, c'est passionnant parce qu'il assume toutes ses références, mais il n'imite personne. Il ne veut pas non plus se distinguer. On ne sent pas une envie de faire différemment que les autres. Il veut faire, lui, ce qu'il a envie d'en dire, sans s'imposer, avec déjà une expressivité incroyable pour son âge.
Justement, on l'a dit, il est très jeune. Est-ce qu'il y a certaines œuvres qui résistent à la jeunesse ? On dit parfois qu'il faut attendre un certain nombre d'années pour jouer certaines œuvres. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'applique à ce pianiste-là ? Ou est-ce qu'il arrive finalement, du haut de ses 20 ans, à rendre l'expressivité de ce piano là, de ces œuvres-là?
Je trouverais ça presque injuste en fait de lui reprocher, parce que ça je dis pas que vous le faites, hein, bien sûr, mais c'est le reproche qu'on fait très facilement à un jeune pianiste. On dira oui, mais alors quand il jouera ça, quand il aura vraiment vécu, quand il aura 50 ans, 60 ans, buriné son expressivité, il aura d'autres choses à dire. En même temps, on lui reprocherait, il manquerait cette jeunesse qui est là sans être une fougue incontrôlée.
Alors, Anna, sur cette jeunesse ?
Bah, sur cette jeunesse, moi je trouve que c'est merveilleux parce qu'il y a une vitalité qui se dégage de ce jeu, une clarté, une facilité aussi, il y a un panache et en même temps une vraie sensibilité. Hein. Je pense à l'opus 10 numéro 3 qui est hyper sensible, très 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 chantant, l'opus 25 numéro 7 dont on a écouté quelques mesures, quelques débuts de mesures, il y a une grande profondeur. Enfin, non, et puis alors. Franchement, moi, je ne sais pas si on se lance dans l'intégrale des études de Chopin à 60 ans, hein, parce que faut quand même. C'est quand même un truc de sportif de haut niveau. Ouais, non. Enfin, pour moi, ça correspond
plutôt bien à un très jeune musicien. Voilà, même si c'est une prouesse inouïe, que c'est complètement fou de faire ça à son âge, à 19 ans, ouais. Ça c'est vrai. Mais moi, j'aime la jeunesse avec laquelle il joue ses œuvres. Je le sens pas vert, en tout cas. Alors, il est pas également inspiré dans les 24 études, quand même. Il y en a qui sont bien, mais qui sont plus normales. Mais il y en a certaines qui ont un éclat tout à fait extraordinaire.
Quand on le lit, quand on lit les intentions de Yu Chan Lim, il emploie volontiers un vocabulaire poétique, voire cosmologique, pour parler de son piano et de ce qu'il essaie de faire. Est-ce que ça se ressent à l'écoute, Charles ?
Je dirais non, et tant mieux. Les jaquettes de disques, enfin les livrets, les bouclettes, souvent désormais, bon, ça dit pas grand-chose. C'est un peu un exercice obligé. Donc on a des fois comme ça des images ou des métaphores un peu faciles qui d'ailleurs des fois sont même pas importantes pour les pianistes eux-mêmes. C'est plus pour donner
du
des
matériel
images.
De communication.
Voilà, c'est du matériel. Là, c'est pas le cas. On sent que c'est sincère, mais ce qui fait vraiment la marque d'un grand interprète, c'est que lui, peut-être qu'il se dit ça, qu'il a ces images, qu'il voit, il raconte, oui, je vois un vieil homme nostalgique, oui, ou etc. Peut-être qu'il a ça, mais ces images-là, elles lui servent d'inspiration et il nous les impose pas non plus. Et on sent que c'est plus une porte d'entrée pour lui dans l'œuvre, une manière de vivre avec l'œuvre, mais qu'ensuite, je suis désolé, je vais employer des grands mots, mais il touche quand même à un universel de ses études.
Quand il dit qu'il raconte des histoires en jouant, vous les entendez, vous, ces histoires, Anna Sigalevitch, vous ?
Alors, on sent qu'il y a un discours qui est construit, qu'il est inspiré, et que c'est pas des pures études techniques. Ça, oui, on l'entend tout à fait. Après, les histoires, la narration, non, il est pas dans une surexplication, il est pas dans un surroubato, pas du tout. Pas du tout. Il y a une forme d'abstraction aussi que moi j'aime.
Peut-être il nous reste quelques secondes, je ne sais pas si vous allez réussir à répondre à ma question, mais est-ce qu'il y a une école sud-coréenne de ce piano-là ? Il y a, on le sait, un soft power sud-coréen très fort, est-ce que ça existe en piano ?
Ah oui, ça existe complètement en piano. Il y a même une chose, alors on dit plus, je crois qu'on ne doit pas dire ça de nos jours, mais il y a une souplesse, il faut le dire, physiologique de la part des Asiatiques.
Ah, physiquement,
vous voulez dire. Mais oui, aussi ça joue quand même pour le... Et ça donne aussi une capacité pour aborder ce type de répertoire, parce que si on est raide, c'est impossible de jouer ça. Tout doit se faire dans la souplesse, et lui, il a une souplesse inouïe.
Il y a une école asiatique, il y a une école chinoise, il y a une école japonaise, il y a une école coréenne. Moi, je suis un fou, amoureux fou de la Corée, qui a cette dimension donc asiatique, mais en même temps péninsulaire. Donc oui, la Corée, c'est pas que Squid Game et la K-pop.
Le disque Chopin étude de Yu Chan Lim apparu chez Decca. Merci à tous les deux
pour ce
dernier débat musique de l'année. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles découvertes. Et bonne année déjà un peu en avance. En attendant, vous retrouverez toutes les références et le podcast de cette émission sur la page des Midi de Culture et sur le site franceculture.fr.